coûte rien.
Et à tous, c'est Patrice pour la 16e de l'Instant C. Nous sommes aussi très heureux de l'accueillir. C'est Pierre-Yves ce matin à la réalisation technique et Nathan est en vacances, le petit salopio. Avec un nom pareil, le garçon a sûrement joué au foot au Sporting Club de Bastia. Il était sans aucun doute de l'épopée européenne en 1978, au stade de Furiani, Charles Orlanducci, Claude Papy, Charles Musy, CQFD. Mais finalement, non. Au Vauban, Charles Musy a été plombier, soudeur, standardiste, barman, il a tout fait. Charles, c'est la troisième génération. Dans cet endroit mythique de Brest qu'est l'hôtel, le cabaret Vauban, on dirait exactement quel est le terme, c'est Charles Musy, le grand-père de Charles, qui a tout lancé. Un hôtel, et de 1966 à 1971, on se retrouvait à la rotonde pour danser aux baluches. Au présent, le petit Charles a quand même bien grandi, et bien mieux que quiconque, il va pouvoir nous raconter l'histoire de l'hôtel, l'histoire du cabaret Le Vauban, celle du golfe Douro-Brestois, comme on disait, la venue de Léo Ferré, les Dogs, Stéphane Echer, il y a eu aussi Jacques Anquetil, le Tour de France, Tino Rossi, Yves Montand, Bourvil, Traîné, ont un jour signé le livre d'or du Vauban. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, il est avec nous ce matin, c'est Charles Musy dans l'Instant C.
Bonjour.
Bonjour Charles. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir, on va pas se vouvoyer, ça va pas le faire. Est-ce que, ça, tu vois, c'est la petite chronique que je fais, l'espèce de petit billet que j'essaye de faire sur l'invité, c'est assez rapidement fait, je dirais. Tu t'y retrouves un petit peu quand même ?
Ça va.
Le Vauban, qui ne connaît pas le Vauban à Brest, boulevard Clémenceau ? Avant, il y avait le PAC en face, le Palais des Arts et de la Culture. Aujourd'hui, il y a le Quartz. Mais le Vauban n'a pas besoin d'avoir quoi que ce soit autour de lui. Il se suffit largement à lui-même, Charles. C'est une longue histoire familiale.
Oui, c'est une très longue histoire familiale. Ouais. Le grand-père avait œuvré dans plein de domaines, sur le sport à l'époque. Il adorait la musique.
Tu me disais que le départ, l'histoire, en fait, c'est que ton grand-père est arrivé à donc famille d'origine corse.
Tout à fait, oui.
Et ton grand-père est arrivé avant la Seconde Guerre mondiale, à Brest.
Oui. Tombé amoureux d'une bretonne.
Voilà. Bretonne, brestoise ?
Brestoise, bretonne, oui.
Ok.
Et on travaillait dans la boulangerie au départ, pâtisserie. Et puis très vite, ils ont acheté des hôtels, enfin deux hôtels bureaux et puis un hôtel plus connu qui s'appelait Hôtel du Cheval Blanc, qui se trouvait à l'emplacement de la poste actuelle, qui malheureusement a été dynamité par les Allemands.
Est-ce que ça parle encore aujourd'hui, cet hôtel, Charles, à certaines personnes qui ont forcément...
L'Hôtel du Cheval Blanc ?
Ou un certain âge aujourd'hui ?
Je pense que les gens qui ont 80 ans et plus ont des souvenirs, oui.
Les Allemands l'ont dynamité ?
Oui, je ne sais pas ce qu'il leur a pris juste avant d'arrêter, enfin, c'était la fin de la guerre. Ils ont décidé d'inamiter plein de bâtiments qui étaient en plein centre-ville. Ils ont forcé ma grand-mère à enlever les trois quarts des meubles qu'il y avait dans l'hôtel avant de le faire sauter. Enfin, ils lui ont fait comprendre que si elle voulait récupérer quelque chose, il fallait faire vite. La pauvre, elle a déménagé énormément de choses dans un hangar du côté de Saint-Pierre. Et là, c'est les alliés qui ont lâché quelques bombes de trop, qui ont fait disparaître une bonne partie des meubles.
Toute l'histoire démarre là, en fait, Charles. Après, le Vauban arrive, c'est ça ?
Le grand-père, quand la guerre était terminée, il est parti avec ses papiers, essayer de récupérer les terrains qu'il possédait avant la guerre. Donc le Vauban est né d'un dédommagement, en fait, de trois hôtels, deux petits et un grand. Et est né un hôtel qui aurait dû normalement faire 100 chambres s'il avait été fini. Malheureusement, mon grand-père est mort relativement jeune. Et l'hôtel s'est arrêté là où il en était. Et
en 1964, je crois.
Et on s'est retrouvé avec un hôtel de 53 chambres. Enfin, mon père s'est retrouvé à l'âge de 20 ans avec ma mère à terminer les travaux. Il n'y avait pas de comptoir, par exemple, dans le bar principal. Je crois qu'au 4e, au 5e, les huisseries n'avaient pas encore été mises. Okay. Puis à l'époque, pour pouvoir avoir des matériaux pour avancer ce genre de chantier, il fallait que tu achètes carrément des wagons. Tu voulais construire un immeuble, il fallait acheter un wagon de ferraille, un wagon de ciment. Parce qu'il y avait tellement de demandes que c'était... Si tu prenais pas le wagon, c'était la reconstruction. Si tu prenais pas le wagon, tu courais après les matériaux pour pouvoir avancer. Quoi.
Quel souvenir tu as, toi, Charles, puisque tu es né en 1957
septembre 57.
Donc ça veut dire que tes premiers souvenirs, début des années 60
Les plus vieux souvenirs que j'ai, l'un des souvenirs qui m'a marqué le plus, c'était de voir le Père Noël se balader avec mon grand-père dans le couloir du premier étage. J'étais tout petit, ma mère. C'était l'époque où on avait encore un semblant de vie de famille dans l'appartement que mes parents s'étaient fabriqué dans le fond du couloir du premier étage.
Tu disais qu'ils avaient posé une cloison au fond d'un couloir.
Ils avaient posé en tout cas une partie du fond du premier qui était bloquée pour eux. Et voilà, j'ai passé toute mon enfance avec mon frère et ma sœur là-dedans. Et un soir de Noël, on avait monté le repas de famille dans le salon et. Et ma mère me dit, tiens, va chercher quelque chose au café en bas. Et puis je cours, j'étais tout môme, mais j'arrive au milieu du couloir, arrêt sur image, je voyais mon grand-père parler avec le Père Noël, en fait.
Génial.
Wow,
génial.
J'ai pris la trouille de ma vie, je suis retourné en vitesse dans l'appartement, je me suis foutu sous la table à manger, sous la nappe. J'étais terrorisé. Premier souvenir.
Et pourquoi tu as grandi dans cette atmosphère de bar et, évidemment, tes anecdotes se comptent par centaines, milliers.
Oh, y en a énormément. Enfin, oui, toute ma vie, de toute façon, on n'avait pas une vie de famille tout à fait comme tout le monde. Quand on voulait manger, c'était toujours
décalé
sur une table à côté de la grande cuisine du restaurant. Il n'y avait qu'à demander au chef ce qu'on voulait. Enfin, c'était où on nous imposait un truc, puis voilà quoi.
T'as su très vite que le Vauban allait faire partie intégrante de ta vie, puisque c'est ta vie. Tu as grandi, tu y es toujours, c'est quelque chose de...
Ah non, je ne pensais pas du tout, non. Du tout. Au départ. Je suis quelqu'un de très passionné par les vieilles voitures, les vieilles motos. Enfin, ouais, à cette époque-là, j'adorais les motos de course. Et mon rêve aurait été d'être mécano, en fait. Et malheureusement, d'ailleurs, au Vauban, il faut savoir que pendant un certain temps, j'ai réparé plusieurs motos sur la scène du Vauban avant qu'on rouvre la salle. Je retapais mes mobilettes trafiquées sur la scène parce que la salle ne servait plus. Mon père voulait plus entendre parler de concert dans cette salle-là, ni de bal. Et donc, j'avais récupéré le lieu. Voilà.
Ça, c'est incroyable, ça.
Je réparais mes motos. Ma mère arrivait en hurlant parce que je faisais démarrer une moto. Et évidemment, tu avais toute l'huile pourrie de la moto qui envahissait le restaurant de l'époque. Ma mère descendait en courant en disant « Tu peux pas arrêter ton bordel. »
Le restaurant était en bas, Charles?
Non. Enfin, le restaurant était là où il se trouve actuellement. C'était rue Branda et une partie dans le bar qui est en face du Quartz. Mais les portes de la discothèque se trouvant dans la brasserie actuelle, à chaque fois que tu faisais démarrer un moteur quelconque avec une odeur pareille, ça remontait dans le restaurant. Quoi.
Alors, si forcément le lieu, l'endroit a changé, mais je dirais par petites touches, parce qu'il y a eu des adaptations, parce qu'il y a eu de la réglementation, etc. Finalement, il n'a pas beaucoup changé, le lieu en lui-même.
Non, l'esthétique du lieu est toujours la même. Ça, c'est j'ai toujours voulu le laisser comme il était. En fait, ça, c'est suite après le passage de Léo Ferret pour Vauban.
En quelle année, Charles, Léo Ferret ?
Qui a été un moment tellement intense pour le Vauban. C'est ce qui a permis l'ouverture de plein de portes.
Tu te souviens de l'année ?
Je crois que c'est 93, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est 93. Il nous a permis de faire des artistes qu'on n'aurait jamais pu faire.
C'est le hasard, en fait, parce que tu discutais avec le chauffeur de Léo Ferré qui réparait sa voiture.
Ouais, qui était en panne avec sa voiture un matin de brouillard, un matin brestois d'hiver. La voiture ne démarrait pas. Enfin, c'était un problème d'allumage. Et après, on est resté discuter avec lui au bar. Et Léo Ferré est arrivé, il a vu la salle. Et quelques temps après, il nous a demandé différents points techniques sur la salle pour savoir si c'était jouable ou pas, quoi.
Et donc, il a joué au Vauban, Léo Ferré. Ouais. Parce que moi, je l'ai vu à la Pinfeld, Léo Ferré.
Ouais.
Mais ça remonte à...
C'était après un concert qu'il avait donné au Quartz.
D'accord.
À l'époque, au PAC. Je me rappellerai toujours parce qu'il y avait Manu Lanuel qui était invité.
Donc, c'est plus ancien que 93, alors, non, Charles ?
Alors, attends, est-ce que ça s'appelait...
Parce que si le PAC existait encore, il a pris feu au début des années 80 ? Pas facile de se retrouver dans les dates. T'as reçu beaucoup de monde au Vauban,
alors, tu me
forcément.
Poses une colle, je sais plus.
On vérifiera.
Ouais, il faut vérifier.
Mais c'est parce que justement, et là, c'est symptomatique
que c'était... c'était au PAC pourtant qu'il avait joué au Quartz. Non, le Quartz n'était pas arrivé encore. Non, t'as raison.
C'est dans les années 80, sûrement, non ?
Ça, c'est sûr. Ouais, c'était dans les années 80. À rechercher dans les archives.
Oui.
Et comme... Je sais que Manu était invité, en tout cas.
Manu Lanuel ?
Manu Lanuel était invité un matin à discuter avec lui.
Manu Lanuel, une sacrée voix brestoise.
Manu qui a d'ailleurs fait un album où il chante Ferré. Tout à fait. Magnifique, ouais. magnifique.
Ouais. Ouais. Manu Lanuel a repris aussi René Guicadou, d'ailleurs. Ouais. Léo Ferré, personnage incroyable. Est-ce que c'est vrai qu'il était quelqu'un de colérique, pas trop facile au niveau de...
Ah, il s'emportait facilement. Enfin, moi, je discutais longuement dans la loge après son concert parce qu'il m'avait demandé de... Il m'avait fait appeler pour que je puisse parler avec lui. Et ouais, il avait le verbe haut quand il voulait. Hein.
Et quand tu dis que tout est parti de là, parce que justement, les gens qui ont des responsabilités, qui ont un pouvoir décisionnel, etc., ont vu que Léo Ferré était passé au Vauban. Et là, du coup, plein de choses démarrent, débutent.
Bah, c'était une période où les artistes connus s'arrêtaient à Rennes. Enfin, beaucoup s'arrêtaient à Rennes. Même les journalistes, tous ceux qui faisaient avancer un petit peu le système, allaient jusqu'à Rennes, ne venaient jamais à Brest. Quoi. Et je pense que ce concert-là, ainsi que celui de Stéphane Escher, et même la découverte de Miossec, ont fait énormément avancer. Montrer qu'à Brest, il y avait un potentiel, il y avait des choses. Et suite à ça, on a eu plein de choses qui sont arrivées. Plein.
Qu'est-ce qui est arrivé ?
Plein d'artistes.
Quand tu regardes le livre d'or, c'est impressionnant.
À l'époque, tu avais Mano Solo de mémoire, tu as Dominica, Stéphane Escher évidemment.
Tu as gardé des contacts d'ailleurs avec Stéphane Escher ?
J'ai eu un texto de lui il y a 48 heures.
Comme quoi
on a un projet pour l'année prochaine avec lui.
Ah, très bien, c'est un scoop là.
Voilà, c'est un scoop. Ouais.
D'accord.
On espère en tout cas que ça va se réaliser. En tout cas.
D'accord. Bon, le présent, le passé, le futur.
Non, j'entends mal là-dedans.
Ah, Charles enlève son casque parce qu'il a...
J'entends pas bien,
oui. tu entends mieux, là ?
Ça va mieux.
Les souvenirs se bouleversent, mais il y a aussi... Je parlais dans le petit billet, avant d'entamer l'interview, notre conversation avec Charles, des noms incroyables. Yves Montand, je crois que ton grand-père connaissait Tino Rossi.
Ah, c'était un grand pote, Tino Rossi, oui. Ouais. Et les grands souvenirs dont on... D'ailleurs, j'ai des photos qu'Olivier Pollard à regarder dans les fameuses armoires où on gardait tous les bouquins là, et toutes les choses que mon grand-père avait. Oui, ils voyaient souvent. On les a vus photographier devant le Vauban autour d'une vieille voiture, là, je me rappelle.
C'est-à-dire qu'un jour, tu as ouvert une armoire et là, c'est un peu le choc.
Bah, y avait une vieille armoire dans le bureau de mon père où il y avait des tas de boîtes, des tas de photos. De temps en temps, j'ai jeté un coup d'œil, je demandais à mon père ce que c'est. Il me dit, oh, on verra ça plus tard, c'est des photos de ton grand-père, des trucs qu'il a fait, de moi et ta mère. Et puis des premières années de la redoute, comme il disait, la salle de bal, quoi, du Vauban. Il dit, on verra ça plus tard. Enfin, on n'a jamais vu. Mon père disait toujours ça, on verra plus tard. Il n'y a pas que ça à faire. Et puis un jour, Olivier Pollard est venu me voir en me disant, Charles, j'aimerais bien faire un truc sur le Vauban. Gnagnagna. Et puis, un soir, bien en forme, j'ai dû lui dire, bon, ok, on va le faire. Et ça a duré longtemps, ça a dû durer un an et demi. J'osais pas ouvrir l'armoire parce que dans cette armoire-là, il y avait tout. Il y avait à la fois les souvenirs, artistiques du Vauban, enfin, en tout cas, tous les artistes qui avaient pu y passer. Mais il y avait aussi les lettres d'amour de mon grand-père à ma grand-mère. Mon grand-père travaillait au niveau de la mairie. Il était assez haut placé à la mairie à l'époque. Il y avait des courriers un peu chauds de l'époque. Donc, j'hésitais toujours. Et comme j'avais promis à Olivier, j'ai dit, allez, tu montes avec moi. Et c'était impressionnant, parce que c'était une armoire immense. J'ai ouvert l'armoire et puis il y avait des tonnes et des tonnes de papier.
Tu avais une certaine crainte, finalement, à ouvrir aussi cette armoire.
Et Olivier, en fait, m'a...
T'as aidé à franchir le pas.
Ouais, il m'a aidé à franchir le pas, mais il m'a surtout éclairé sur ma famille. Parce que j'avais des tas de photos, je ne sais pas qui c'était. Et il a fait une recherche très approfondie de toute ma famille, d'où on venait. Et en fait, il m'a montré les photos, il me dit, bah, tu vois, ça c'est ton arrière-grand-père. Mes parents n'avaient pas été capables de me dire qui il était, quoi, parce qu'il n'en parlait jamais. C'était tout le temps boulot, 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 hôtel, restaurant, bar. Donc, tout ce qui était famille, on verra après. On t'expliquera un jour. Et puis, ils n'ont jamais rien expliqué, en fait.
D'accord, donc tout seul, tu t'es fait...
Olivier et Yann Legac ont créé le bouquin, ils ont sorti les photos, ils ont commencé à répertorier tous les pellicules. Heureusement, il y avait des tas de choses qui étaient datées, donc ils savaient que c'était à telle époque. Et ils ont commencé à faire des archives, à remonter le temps comme ça. Et ils ont réussi à remettre tout en ordre, quoi.
Alors évidemment, Charles Le Vauban, ta vie, ce sont des histoires de rencontres, d'amitié, de fraternité, de grands moments, d'anecdotes aussi, comme je disais tout à l'heure. Et c'est aussi Christophe Miossec.
Ah, Christophe est une immense rencontre. D'abord, on se connaissait avant, mais sans le savoir, parce que jeune, il venait avec la famille Miossec manger au Vauban. Parce que c'était à l'époque dans le restaurant qui était rue Branda. Il était bon temps que les familles viennent manger pour différentes raisons, anniversaire, communion, baptême, j'en sais trop rien.
Comme on allait souvent au restaurant, c'était le dimanche.
C'était le dimanche, on allait se taper un plateau de fruits de mer.
Voilà.
Avec la viande, le plateau de fromage après, le dessert. Donc on s'est croisés à ces moments-là. Et puis après, la rencontre, quand j'ai rouvert le lieu avec tous les concerts rock que l'on a fait au début, les Dogs,
Dead's
Beat, Stéphane Escher, il y avait à l'époque, il y avait Nolso The Trees, il y avait plein d'artistes que l'on a fait. Fatalement, on a vu Christophe débouler avec toute sa bande. Et puis là.
Donc c'est Printemps Noir à l'époque déjà ou...
Non, c'était pas Printemps Noir, c'était déjà Miossec. Printemps Noir était déjà passé.
Déjà passé.
Et la rencontre avec Guillaume Jouan, avec Bruno Leroux, c'était les sacrés fêtards.
C'est toujours.
Les fins de nuit, les fins de nuit étaient torrides. Charles, on viendra te payer demain quand on aura des sous. On va payer. Les ardoises s'allongeaient au fur et à mesure du temps.
C'est un petit peu l'histoire de Charles quelque part aussi.
Ouais. Et donc... puis ce putain d'album qu'ils ont fait, quoi, qui a été. Et puis après, ces concerts à n'en plus finir, qui duraient 3-4 jours au Vauban, complets tous les jours. Ouais, c'était des grands, grands moments.
Et donc, tu as choisi ce matin le choix de l'invité.
J'ai voulu, ouais, parce que j'adore...
Miossec.
J'adore Miossec, puis je trouve que de la manière dont il a fait ce morceau, ressemble vraiment au petit bal de mon père, quoi.
Miossec, un samedi soir au Vauban.
Si nous portons ainsi notre visage, c'est pour qu'il soit un jour aimé. Ce serait quand même bien dommage qu'il ne soit plus jamais caressé. Même s'il a connu du carambolage et qu'il en est sorti cabossé, à quel tournant. Si nous portons ainsi notre visage, ce n'est pas par pure vanité. Il faut quand même un certain courage pour aller comme ça. Il a vu tant d'oiseaux dévorer la cage, il a vu tant de couples se déchirer, qu'il va partir à l'abordage, à la recherche de sa moitié. On l'attend, je ne sais où, je ne sais quand, on l'attend. Virage à quel tournant. On l'attend, je ne sais où, je ne sais quand. On l'attend,
Miossec. Un samedi soir au Vauban, le choix de Charles Musy ce matin. On profitait de écouter Miossec d'une oreille non pas distraite. Et Charles nous abreuve d'anecdotes toutes aussi croustillantes les unes que les autres, aussi fraîches et un peu moins fraîches que d'autres. Mais bon, il s'en est passé des choses quand même. Ah, j'entends pas Charles, j'ai pas Charles. Dans...
Allô, allô.
Voilà, il est là.
Ah, si, le bal, à la période du bal, il y a eu des choses extraordinaires. Oh, les rencontres, les couples illégitimes. C'était terrible. C'était terrible, les bagarres. Les bagarres verbales ou les crépages de chignon. Ah, vous alliez dans les toilettes des femmes, au niveau des lavabos, c'était exceptionnel. Des dames qui avaient l'âge de ma mère, voire ma grand-mère, qui s'engueulaient parce que sa copine avait été voir le garçon qu'elle avait l'intention de charmer pour la journée. T'as pas le droit, c'est le mien. On était obligé d'intervenir dans les toilettes parce qu'il s'arrachait les cheveux ou la perruque, quoi. C'était monstrueux.
C'est excellent. Ah, c'est redoutable.
Il y avait une anecdote d'un vieux beau qui voulait qui draguait les femmes. Je la raconte, celle-là, parce qu'elle est rigolote.
Ouais.
Et en fait, il disait, tu sais comment qu'on arrive à voir les femmes ? Il faut leur offrir tout ce qu'elles veulent. Mais comment tu fais ? Si elles veulent une tondeuse à gazon, tu leur donnes une tondeuse à gazon. Elles veulent un poste de télé, tu leur offres un poste de télé. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je travaille au Spernote à la ville de Brest. Elle est grandiose, celle-là.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers auditeurs.
J'espère qu'ils ne s'en reconnaissent pas. Moi, c'est une vieille histoire, très très vieille, mais réelle, il paraît.
Il ne faut pas qu'on soit mis en difficulté par les histoires de Charles Musy. C'est notre invité ce matin. Et nous parlions donc des souvenirs du Vauban. Il y a eu donc ce livre, Le Vauban, un siècle d'histoire brestoise. Je crois que j'ai une petite surprise pour toi, Charles. Merci. Bonjour, cher inconnu.
Bonjour.
Alors, Charles, reconnais-tu cette douce voix ?
Non.
Je dirais...
Bonjour.
Bonjour.
C'est Olivier, Charles.
Ah, Olivier, bonjour.
Olivier Pollard.
Ah oui, attends, je remets le casque, j'entendrai mieux.
Voilà, il n'avait pas son casque, Charles.
Ouais.
Ouais, ça y est, je t'entends.
Olivier
bon,
Pollard.
Au fond.
Ça va, il n'a pas de retour, Charles, dans son casque.
Ça, j'entends pas.
Olivier demande si tout se passe bien ce matin dans la 16e de l'Insensé où nous recevons.
Bah écoute, tout se passe bien, ouais. Je
Charles
raconte
Musy.
Quelques anecdotes du bouquin et surtout comment tu. Avec persévérance, je t'ai donné l'autorisation d'ouvrir cette armoire où il y avait tant de souvenirs.
Ouais, 6 ans, hein. 6 ans, j'ai mis à te décider, je crois.
Ah, moi je disais une année, toi.
Non, 6. Si, ouais. Parce que en fait, je t'ai relancé tous les 6 mois, puis après il y a eu des travaux. Donc après les travaux, pendant 2 ans, c'était inaccessible.
Ouais.
Je te rappelle. Et puis voilà, une fois que les travaux étaient faits, c'est bon, c'était parti. Quoi.
C'est parti.
Ça, ouais. Ça a été fallu travailler d'arrache-pied.
Donc en tout cas, très gros souvenir. Et heureusement que t'as mis de l'ordre dans cette armoire, parce qu'on plein de gens ne connaîtraient toujours pas l'histoire en fait.
Donc le livre qu'a écrit Olivier Pollard avec Yann Le Gat, Le Vauban, un siècle d'histoire brestoise. Du coup, comme je disais, cher Olivier, avec Charles, c'est que c'est une espèce de caverne d'Ali Baba quand on ouvre cette armoire.
Alors il y avait plein d'armoires à ouvrir en fait, il n'y avait pas qu'une, hein. Il y en avait...
Il y en avait une principale, disons.
Et ouais, c'était génial, c'est toujours super de découvrir des archives et de remonter plus loin que ce à quoi on s'attendait. Ça, c'était la grosse surprise de retrouver l'histoire du cheval blanc qui précède le Vauban.
Ça, c'est le premier hôtel que le grand-père de Charles avait du côté des Halles Saint-Louis.
La poste.
Ouais, ça, derrière la poste centrale, rue Algégiras. C'est un jardin là. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à la place. Et ce très vieil hôtel, restaurant, cette auberge, a été rachetée par ton arrière-grand-père, Tréberne, en 1923, je crois.
Il connaît mieux que moi toute l'histoire.
On retrouve l'historien Olivier Pollard. Hein.
Il y a un vrai début, quoi. Il y a une histoire qui débute à un moment précis et c'est lié à cet arrière-grand-père brestois et ce grand-père corse qui arrive dans les années 20 comme soldat. Et voilà, c'est une histoire très brestoise, en fait, entre des Bretons et des expatriés qui vivent dans Brest et puis qui ont une histoire singulière, quand même.
Toi, Olivier, qui est musicien également, qui a joué sur la scène du Vauban, qui a étudié cet endroit, Qu'est-ce que tu peux nous dire exactement? T'es un petit peu, je dirais, des deux côtés du manche.
Ben, c'est vrai que ça m'a vachement plu de travailler sur ce sujet parce que ça mélange à la fois l'histoire de Brest et puis l'histoire de la musique aussi avec un grand M. À la fois local et puis international, et c'était fascinant. Et puis il y a ce personnage de Charles qui est derrière, et puis qui, enfin ces personnages, parce que son grand-père et son père étaient aussi des sacrés activistes dans leur genre et des sacrés personnages. Voilà, tout ce mélange là, tout cet ensemble de choses font que ce livre était passionnant à réaliser.
Qu'est-ce que tu aurais envie de dire ce matin à Olivier, Charles?
Rien, j'ai rien à dire après ça, qu'est-ce que tu veux dire? Merci Olivier d'avoir assisté pour que je touffe ces armoires et que tu fasses ce boulot-là, parce que je pense que personne n'aurait fait.
Si, moi j'avais l'idée de le faire en me disant qu'il y avait quelque chose à faire de fort, quelqu'un aurait eu l'idée à un autre moment, mais c'était un sujet qui valait vraiment le détour.
Tu sais, on ne sait pas, peut-être que le jour où j'aurais arrêté, ou j'en sais rien, il me serait arrivé quelque chose, peut-être que ces armoires-là... Je ne sais pas si on les aurait gardés comme ça. Je sais que je suis un peu comme mon père, je garde tout, mais vraiment tout. Il y a des gens qui se foutent de moi tout le temps, mais bien content après. Je ne sais pas, peut-être que toutes ces choses-là auraient disparu. Hein.
Bien fait de tout garder, c'est clair.
Parce que comme nous, tu sais mieux que moi que mes parents ne parlaient jamais de leur histoire, donc en fait, on ne savait rien de toutes ces photos. C'est incroyable,
drôle,
de voir des
que...
photos de gens et tu sais même pas que c'est ton arrière-grand-père. Quoi.
Ouais, c'était ça, ouais, ton arrière-grand-père corse, tu savais pas du tout.
Don Anton Muzzi. À chaque fois que je dis ça, Mio 5, il éclate de rire. Il faut voir la gueule de Don Anton Muzzi. Hein. Il fait peur. Hein. Oh là, t'as pas envie de jouer avec.
Sacré gueule. Hein.
Ah ouais, il a une gueule de. Wow, on dirait Buffalo Bill.
Bon, en tout cas, il y avait une espèce de, si je peux me permettre, une espèce d'omerta finalement autour de ces souvenirs, un petit peu. C'était une certaine retenue de la part de tes parents et de ta famille.
Je sais pas. Je sais qu'ils avaient eu beaucoup d'histoires avec la Corse hein, et ils voulaient pas en parler. Donc c'était comme ça.
On peut toujours encore trouver ce livre, Olivier, écrit avec Yann Le Gat, Le Vauban, un siècle d'histoire brestoise, paru chez Cobbrez. On salue Cobbrez. On peut le trouver d'ailleurs au Vauban.
On le trouve au Vauban. Cobbrez en a encore. Je ne sais pas s'il en reste à Dialogue. Il me semble que oui. Je ne sais pas, Olivier, c'est peut-être...
Il me semble que oui, oui.
Qu'est-ce que, pour conclure, Olivier, aujourd'hui, le Vauban, peux-tu nous dire, en tout cas, quel est ton avis sur sa place au sein de la cité?
Oh ben, je pense que tout le monde connaît le Vauban, au-delà de Brest, largement. C'est un lieu tellement atypique et tellement... chargé d'histoire que tout le monde c'est un lieu un des grands lieux mythiques brestois.
Bon, merci
et
Olivier
qui a l'avantage de rester tel quel et a toujours même si les serveurs changent Charles a toujours le chic pour trouver des personnages qui vont bien avec lui et qui vont bien avec le lieu et c'est un lieu qui reste aussi efficace qu'il y a 15 ans quoi.
T'es assez d'accord avec ça, Charles ?
Tu parles bien. Hein. Oui, il parle bien.
Merci, Olivier, d'avoir été avec nous ce matin.
De rien, un plaisir, un vrai plaisir.
Salut.
Salut.
À bientôt. Charles, c'est vrai que quand on écoute Olivier, qui évidemment, je le connais un petit peu aussi, il a bien travaillé son sujet, et ce livre doit être absolument une mine d'or. Hein. Il faut absolument le retrouver et le garder, le conserver.
Tous les gens qui l'ont acheté ou enfin, qui s'ont procuré ce bouquin me disent la même chose. Ils me disent qu'il est super bien fait. Quoi. Et au travers de ce bouquin, on apprend en même temps l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé après la guerre, enfin, comment ça s'est reconstruit. Parce qu'il y a très jolies photos d'archives. Quoi, mon père disait toujours que le Vauban, quand on a. Enfin, c'est une des seules choses qu'il m'avait dit, en tout cas, quand il y a eu la reconstruction, la construction du Vauban, ça ressemblait à un bateau. Et en fait, quand tu regardes dans ce bouquin, tu as toute la partie charpente qui ressemble à une proue de bateau, en fait.
Ouais. D'accord, ouais. Et il y a forcément, moi, j'ai des souvenirs aussi de journalistes, puisque c'est là que j'ai rencontré M, Dominica, j'ai fait quelques petites interviews sympathiques au Vauban. Aujourd'hui, Charles, c'est plus difficile de faire venir des musiciens, des artistes. Il y a moins de concerts qu'avant.
Il y en a moins, mais ça c'est lié à la conjoncture politique actuelle où malheureusement les aides à la culture ont été diminuées par je ne sais combien. Donc toutes les municipalités on réduit, voire annuler les aides aux associations, il y a, aux artistes, aux voies de développement. Donc, et puis il y a aussi le nombre de lieux culturels, je veux dire, étatisés, qui, dans chaque ville, enfin, chaque patelin a son centre culturel. Je pense que tout ça, ça pèse dans la balance, ouais, je crois.
Évidemment, c'est aller fréquenter vos endroits préférés, aller dans tous ces endroits comme le Vauban.
Comme le Vauban ou comme les clubs, il y a des tas d'endroits qui font de la musique avec des petits moyens. Il faut absolument aider ces gens-là et aller dans ces concerts-là. Parce que pour moi, c'est là où naissent les artistes, hein, dans des endroits qui ne sont pas nécessairement super équipés. Mais,
on en parle assez régulièrement dans l'instant C. Faites vivre la musique et allez-y, déplacez-vous, allez applaudir ou faites tout simplement de la musique. Et évidemment, si encore aujourd'hui il y a des gens qui ne connaissent pas le Vauban, il faut y aller. Je ne vais pas te demander un souvenir, Charles, parce que des souvenirs, il y en a trop. Il y en a beaucoup. Tu peux pas. C'est difficile de sortir un moment particulier que tu gardes en mémoire plus que d'autres.
Comme je te disais tout à l'heure, il y a trois choses qui m'ont marqué énormément. L'histoire de Léo, Léo Ferré, c'était une tellement jolie histoire. Et puis la rencontre de Christophe et tous ses musiciens, sa carrière qui était aussi fulgurante, c'était impressionnant. Et la venue de Stéphane Escher en même temps, ou Dominica, tous ces gens-là qui sont arrivés jeunes au Vauban. Enfin, on a poussé ensemble, en fait. Pour moi, c'est des souvenirs fantastiques, quoi. Vraiment fantastique d'avoir l'impression de participer quelque part à leur réussite. Voilà, je sais pas, il y a un côté comme ça. Et je trouvais qu'il y avait à cette époque-là, il y avait, enfin, je parle comme un vieux con peut-être, mais une espèce d'élan de solidarité entre les techniciens, les lieux, qui était très impressionnante. Il y avait plein de choses qui émergeaient partout, quoi. Je trouve qu'il y en a moins maintenant.
Tu retrouves pas ça aujourd'hui?
C'est plus structuré, c'est moins spontané, je sais pas. T'allais dans les troquets, tu découvrais des gens. Tu vois, les Matmata qui ont commencé leur carrière dans les troquets, ou Marc Ribet, l'un jour, les a rencontrés. Fantastique, quoi. Tu te dis, waouh. Et puis là, le concert a lieu quelques temps après. C'est des concerts. Les premiers concerts au Vauban, il faut savoir qu'on tirait. Il n'y avait pas de câble de terre sur scène, on tirait un câble. Tout premier concert, on avait accroché un câble avec du scotch par terre pour alimenter les musiciens, et on éteignait la lumière avec un interrupteur sur scène. Ah, c'était grandiose, quand même, quoi. T'avais un va-et-vient, quoi.
C'est-à-dire qu'il y a peut-être moins d'improvisation. Ben
oui. Le premier concert au Vauban, c'était les Dogs. C'était la ventilation. Tu aspirais l'air de la salle, tu l'as recraché dans la chaudière, dans la chaufferie, pardon. Ça a été très vite réglé. Hein. La première commission, ils m'ont fait comprendre qu'il fallait changer ça vite, vite, vite. Bon, mais tout a été fait, évidemment, après. Mais voilà, c'était des conditions à la route. S'il n'y avait pas eu ces moments-là, on n'en serait pas là, quoi.
Je veux dire, il y a moins d'improvisation, moins de feeling, moins de naturel peut-être aujourd'hui, quoi. On est engoncé dans des réglementations peut-être un peu compliquées.
Ouais, ça va très loin.
Ça va trop loin. Ouais.
Je trouve qu'il faut devenir des choses plus simples, quoi. Évidemment, il y a toujours des prises de risque, mais trouvez-moi un endroit où il n'y en a pas, des prises de risque, quoi. Il faut aussi bricoler une moto dans le temps, d'aller faire des courses de compète. Je veux dire, on prenait tous des risques. Hein. La moto n'était peut-être pas aux normes comme il fallait, mais la seule chose, c'est qu'il fallait gagner, quoi. Je pense que les artistes, c'est pareil. Ils ont toujours cette violence, mais c'est les lieux où ils peuvent jouer qui disparaissent les uns derrière les autres, quoi.
Jean-Charles, tu vas avoir bientôt 60 ans.
Oui, nom de Dieu.
Je crois que l'aventure est loin d'être finie, en fait.
Non, moi, j'ai pas envie de la finir. C'est juste que par moment, on te fait comprendre que voilà, la plus belle histoire, c'est celle de Miossec, hein, pour les 50 ans du Vauban, où en déconnant, on se disait, allez, on va le faire une fois tous les... Enfin, moi, je disais à Christian, on va faire ça une fois tous les 10 ans, quoi. Et puis Miossec, d'un calme olympien, qui dit, bon, on en fera peut-être une, alors. Puis là, paf! Donc tu te dis, bon, on en fera une tous les ans pendant 10 ans. Voilà, bon, d'accord, moi, ça, c'est fait.
Bon, il y a des projets quand même, Charles. Je sais que dans la tête, il y a plein de choses.
Il y a plein de choses.
Qui bouillonnent.
Il y a plein de choses qui bouillonnent. Il y a plein de rendez-vous qui vont avoir lieu. Non, l'histoire n'est pas finie. Pop.
Bon, tu vas rester avec nous jusqu'à 10h50 pour la fin de l'émission.
Hein,
tu nous restes un petit peu avec
bien
nous.
Bien sûr.
Merci en tout cas pour cette première partie d'émission.
Merci. Merci à vous de m'avoir reçu.
Hein, Panthéon Rococo, on va finir avec Charles.
Rococo.
la gente pobre no tiene lugar.
J'aime beaucoup Panthéon Rococo, La Carencia, L'Agenda dans l'instant C, dans le Télégramme, les collègues du Télégramme, je me permets de les citer, L'Avant-Scène à Plougastel, L'Avant-Scène 3, où nous retrouverons des artistes tels que Reverse, le duo rock brestois, Grand Palladium, par Lord Snex. Il y aura également sur cette scène jeudi soir à la Velvore, à Plougastel, le groupe Matmata qui fait son grand retour avec un nouvel album. D'ailleurs, ben, Matmata, ce sont aussi des souvenirs, évidemment, pour Charles Musier-Vauban. Et il y aura aussi notre copain et notre ami Rotor Jambrex qui sera donc présent jeudi soir à la Velvore. On écoute un extrait de son dernier album, Rotor Jambrex.
Are you up for a blast? Of that around the passing time, because the time is now. Next second is just enough. Step towards the sky, the sky. I'm high.
la 16e de l'instant C, assez riche. Ce matin, c'est Charles Musy du Vauban que nous recevons. Alors que monsieur David Guézenec est en train de cracher ses boyaux, comme on dit entre parenthèses. C'est notre.
C'est ma fille.
C'est... c'est notre fauneur de ce matin, le chanteur du groupe Erevan. Alors, entre les anecdotes. Entre les morceaux pendant la musique de Charles Musy et le crachouillage au téléphone, le chanteur de Erevan, David Guézenec. Bonjour David.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Comment vas-tu ?
Bah écoute, voilà, ça va bien. Ce matin, bon, évidemment, le groupe Erevan, dont tu es le leader, continue à travailler sur ce second album après le premier Darkness Epsilon.
Ah, t'as fait des progrès.
T'as vu ? Darkness Epsilon, le premier album de Erevan. Et là, il y a un gros projet, David, tu vas nous en parler, c'est le tribute, comme on dit, tout Scorpion, le groupe Scorpion de Klaus Meine.
Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. C'est un projet que j'avais à cœur de réaliser. Et en fait, bon, bah, j'ai trouvé les acolytes assez facilement, puisque, comment dire, c'est ni plus ni moins que Steph Guilherme, Pat Charles de Stool. Et en fait, on a pris la chanteuse qui n'est autre que l'une des sœurs de Steph Guilherme, Delphine, donc qui va nous accompagner. Et Hilaire Rama sera à la basse, donc le bassiste de Erevan aussi.
Voilà, Hilaire qui a tourné avec Hubert Félix Thiéphen, avec...
Oui, avec Hervé Villard, il a fait des basses pour Bibi, entre autres, enfin beaucoup de variétés françaises, mais il n'a pas fait que ça, il a fait Stival, il a fait Patomé aussi, et bien d'autres, Dan Arbraz aussi, donc voilà. Donc,
et puis Pat Charles à la batterie, et puis donc la fratrie Guilherme que l'on connaît bien aussi.
Oui, ultra connu mondialement dans tout le pays de Brest.
où c'est que vous en êtes, David, avec le tribut de tout Scorpion ?
Ah ben là, on est en train de faire la démo, là, justement, pour pouvoir démarcher un peu partout, en fait. Donc là, on est en pleine réalisation de la démo, en fait, ni plus ni moins. Voilà. Donc moi, pour ma part, j'ai fait une grosse partie de tout ce qui est guitare. Je vais me coller à tout ce qui est la réalisation de la démo, c'est-à-dire mixage et mastering. Et là, j'attends en fait le retour de chant et de Delphine et de ses chœurs aussi, puisque dans Scorpion, en fait, il y a une place prépondérante. C'est vrai pour le chant, mais les chœurs sont super importants aussi, quoi.
Alors, quand on prépare une tribute pour un artiste ou un groupe, on choisit combien de titres, David ?
Ben, disons que pour ce qui est de la démo, on est plus ni moins, on choisit 5 titres. Alors, on a choisi les titres les plus commerciaux, en fait, de Scorpion, hein, même si, évidemment, on va reprendre des anciens titres aussi avec période Lee John Ross. Mais autrement, ouais, on en choisit une trentaine, quoi, et on fait tourner selon l'envie, selon les... et puis aussi selon les lieux aussi, évidemment. Voilà.
Le public pourra découvrir tout ça quand exactement sur scène ? Est-ce que c'est déjà arrêté ?
Normalement, ça devrait, je pense, dans le courant de l'été, ouais. Au courant de l'été, il devrait y avoir quelque chose. On est en train de justement négocier quelques dates déjà, donc du coup, ce sera certainement cet été qu'on va pouvoir entendre le projet Hurricane. Voilà.
Le projet, c'est le nom du projet, c'est Hurricane.
Oui. On n'a pas été chercher très loin, hein, puisque l'un des titres les plus marquants de Scorpion, c'est quand même Rock You Like a Hurricane. Et puis Hurricane, ça fait ouragan, donc voilà. On est un peu habitué à en avoir dans la région de Brest, donc du coup, on s'est dit que ce serait pas mal pour un autre groupe, en fait. Ni plus ni moins.
Je ne pouvais pas t'avoir, David, sans parler évidemment de Erevan.
Oui.
Où c'est que tu en es avec le second album ?
Eh ben en fait en cours d'écriture, donc là je suis en train d'écrire ni plus ni moins qu'un concept album. Et donc du coup ça prend plus de temps parce qu'il faut que l'histoire soit complètement crédible, quoi, en fait, ni plus ni moins. Et donc ça doit aussi tenir compte aussi de l'enchaînement des chansons qui doivent se faire de manière assez
Ça doit couler comme une rivière.
Pardon ?
Ça doit couler comme une rivière.
Voilà, c'est ça. Ça doit. Ouais, exactement. Et puis un peu comme dans un bouquin, quoi. En fait, ni plus ni moins, quoi.
Oui, voilà.
Ouais. Donc c'est pour ça. Moi, je travaille là pour l'instant. Là, je suis en train de faire les démos des titres et tout ça que j'envoie régulièrement aux trois autres gars. Donc du coup, voilà, il y aura. Ça risque d'être assez. Assez, comment dire, important, je pense, pour nous. Donc, je pense certainement démarcher à l'étranger parce que j'ai bien peur qu'en France, malheureusement, on ne soit pas bien compris. Donc, du coup, je pense qu'on va plutôt taper vers l'étranger au niveau du démarchage, je pense. Voilà.
Merci d'avoir été avec nous ce matin, David.
Mais moi, de rien, c'est moi.
J'ai choisi un morceau de Scorpion tiré de l'album Live, Tokyo Tapes.
Le meilleur live de Scorpion.
Tout à fait. Voilà. Alors, j'espère que c'est bien ça. C'est le morceau, c'est... Je te dis à bientôt, David, et Picture Life.
Oui, Picture Life, ouais. Salut.
Scorpion, Picture Life, donc pour évoquer avec David Guézenec le tribute tout Scorpion. Charles, ben c'est déjà l'heure de la 16e de l'instant C, on parlait encore entre les morceaux de musique et le jazz, c'est ton truc aussi, hein. T'as toujours aimé le jazz ? T'es fan de jazz ? On sent que Charles, il a déjà fini l'émission. Il a 3 mètres du micro.
Oui.
Merci d'avoir été ce matin avec nous, Charles.
Ce fut un plaisir.
Pour évoquer le Vauban.
Et tu vas finir par du jazz apparemment.
Ah ouais, Ibrahim Malouf, c'est notre générique.
Ouais, super.
Tu l'as reçu d'ailleurs au Vauban.
On l'a reçu, ouais, au Vauban, il y a quelques années. Ouais. Ouais. Très bon souvenir, très très bon.
Merci Charles.
Un mec fantastique.
Ouais. À bientôt.
À bientôt.
Nous recevions donc ce matin Charles Musy pour évoquer l'histoire du Vauban. C'était la 16e de l'instant C. Merci à toutes et à tous, chers auditeurs, chers auditrices. À la réalisation technique, il y avait Pierre Rive ce matin. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Kenavo !